Alors donc nous accueillons Anne-Sophie Rigler, qui nous vient de l'ENS de Lyon, donc qui est normalienne, et qui travaille sur Lorca, d'une façon à la fois espagnole et philosophique, puisque vous êtes philosophe aussi de formation, ce qui complète notre panorama et notre panel. Donc vous avez mené des études de philosophie à l'ENS de Lyon, vous êtes toujours...
Non,
vous n'êtes plus.
J'enseigne maintenant.
Ah oui, mais je pensais que vous étiez toujours quand même.
Non, c'est à Paris que je suis inscrite en thèse.
D'accord. Bon, et alors Anne-Sophie a une particularité, c'est qu'elle est à la fois praticienne parce qu'elle pratique la danse flamenca dont elle est spécialiste. Alors peut-être, je ne sais pas si vous nous ferez une petite démonstration à la fin, mais
je ne ferai pas comme ce matin. Je préfère le dire avant.
Donc. Elle est à la fois praticienne de la danse flamenca et spécialiste de la philosophie du flamenco et de l'orca. Voilà. Donc, elle a obtenu le CAPES. Et donc, si vous voulez, elle va nous parler aujourd'hui du duende et de la conférence sur le duende. Alors, peut-être vous pouvez redonner votre titre, parce que des fois, il peut changer.
Oui, alors le titre, c'est « Une lecture conceptuelle de jeu et théorie du duende ».
Donc, c'est la conférence de l'orca sur le duende. Je vous laisse la parole, Anne-Sophie.
Bah, merci beaucoup pour cette invitation et cette présentation. Alors, pour commencer, on peut dire que la conférence « Jeux et théories du duende », donc donnée par Lorca dans les années 30, est le premier texte connu à traiter explicitement du duende. Dans les usages actuels, qu'ils appartiennent au langage ordinaire ou au discours scientifique...
Attendez, excusez-moi, parlez pas trop vite parce que nos collègues comprennent le français, mais parfois, il faut pas parler
d'accord.
trop vite.
Je vais essayer merci. De me ralentir. Donc, dans les usages actuels, qu'ils appartiennent au langage ordinaire ou au discours scientifique, le duende apparaît le plus souvent comme un indéfinissable. On peut faire l'hypothèse, donc, sur laquelle je reviendrai, que cette représentation commune prend sa source, non pas tant ou pas seulement dans le style adopté et le sens véhiculé par la conférence de Lorca elle-même, que dans l'interprétation dominante fournie par certaines études de la conférence. Cette interprétation consiste en effet à voir dans « Jeux et théories du duende » un texte avant tout poétique, reléguant la rationalité au second plan. Certaines études critiques ont pourtant commencé à montrer que cette lecture pouvait être réductrice compte tenu de certains enjeux proprement théoriques ou même idéologiques du texte. Donc ici, je me propose de fournir une analyse conceptuelle de « Jeux et théories du duende » qui rende davantage justice à la dimension philosophique du texte et ainsi de dégager ce qui peut constituer un véritable concept du duende chez Lorca. Ceci pourrait relativiser la portée de certaines représentations actuelles du duende. Alors pour cela, je vais commencer par dresser le panorama des usages actuels du duende, pour ensuite légitimer de façon plus détaillée le choix de cette analyse conceptuelle, et dans le but final de développer cette analyse. Alors dans un premier temps, on peut se demander en quoi consistent les usages actuels du duende, et surtout mesurer l'écart qu'il présente par rapport aux usages que Lorca évoque lui-même dans sa conférence. Alors, mes enquêtes à la fois empiriques et théoriques montrent que ces usages se caractérisent aujourd'hui par une relative rareté, ce qui contraste avec le constat fait par Lorca dans la conférence quand il déclare, je cite, « On entend dire à fréquence régulière, voilà qu'il y a beaucoup de duende ». Alors en fait, cette rareté, elle est peut-être plutôt avérée en Espagne qu'ailleurs. Les usages actuels semblent en effet être prioritairement le fait de non-espagnols, alors que Lorca mentionnait surtout un usage espagnol du terme. On peut aussi préciser que généralement, le terme de duende est utilisé plutôt par les néophytes, des apprentis, des mondes du flamenco, de la tauromachie ou des touristes. Alors que Lorca mettait l'accent sur, je cite, le savoir que les grands artistes du sud de l'Espagne ont à ce sujet. Enfin, dernière chose, malgré leur relative rareté, ces usages présentent une très grande hétérogénéité. Les contextes, d'abord, donc depuis la conférence de Lorca, semblent s'être démultipliés, alors que Lorca circonscrit le duende au champ des arts. Aujourd'hui, on trouve le duende aussi bien dans l'art que dans quantité de domaines de l'art de vivre, le design, la gastronomie, etc., ou même dans tout ce qui concerne l'esthétique en général. Dès lors, l'essence du duende ne semble pas présenter au premier abord de cohérence entre eux, puisque ce duende peut être tour à tour assimilé à la qualité d'une personne, par exemple un pouvoir créatif, à la qualité d'un moment, par exemple un moment émotionnel, ou encore à la qualité d'une performance, notamment dans le flamenco, dont les causes et les effets sont multiples. On ne sait pas si l'Uende est une détermination objective ou subjective, ni si cette détermination doit être attribuée à des personnes, à des événements ou à des choses, ce qui pose bien sûr des difficultés ontologiques majeures. Au sein de ce paysage hétérogène, il y a quand même une certaine unité qui semble se dessiner à travers la récurrence d'une double représentation. Premièrement, on traite généralement le Duende comme une réalité ineffable, et deuxièmement, cette réalité serait transcrite par un terme intraduisible. L'ineffabilité du Duende, très souvent associée à ce qu'on appelle son mystère, voire à sa magie, est devenue un véritable topos, notamment, au sein de la flamencologie. Et de par l'association que les représentations font entre le Duende et les origines du flamenco et de la tauromachie, le Duende est perçu comme étant propre à une culture, quand bien même on hésite sur sa détermination, est-elle hispanique, espagnole, andalouse. Donc c'est à ce titre que le Duende est entré en 2004 dans le vocabulaire de Barbara Cassin, le vocabulaire des intraduisibles. Alors, après avoir rappelé donc cette représentation dominante du Duende, je vais maintenant tenter de remonter à ses origines possibles pour la comprendre, mais aussi en interroger la légitimité. Alors, on peut dénombrer quelques origines. Par exemple, qu'est-ce qui fait qu'on pense que le Duende est un ineffable ? Bien, peut-être la force de l'émotion qui paralyse la pensée au moment où le Duende survient. Autre origine possible, une manière d'appréhender le plaisir, notamment dans le flamenco, qui est avant tout vécu plus que verbalisé. La tentation également d'ajouter au plaisir de l'expérience un autre plaisir, c'est celui de l'imaginer mystérieuse, ce qui entretient une certaine séduction. Par ailleurs, on peut dire que, au moins dans le milieu flamenco, une certaine méfiance envers le langage existe. Non seulement il ne serait pas possible de parler de la magie flamenca, mais peut-être ne le faudrait-il pas non plus, sous peine peut-être que l'expérience ne disparaisse dans sa singularité. Mais, une fois ces différentes origines des usages rappelées, on peut dire que l'une des origines essentielles peut aussi résider dans une certaine partialité des interprétations qui ont été produites de jeux et théories du Duende. Alors certes, il est vrai que le texte de Lorca lui-même met en avant l'irrationalité. Lorca met en avant sa propre irrationalité quand il dit que c'est surtout la voix poétique qui va parler au début du texte. Et puis, c'est aussi l'irrationalité de son objet, donc le Duende, qu'il affirme quand il dit, je cite, que c'est un pouvoir mystérieux que tout le monde ressent mais qu'aucun philosophe n'explique. Mais on peut dire qu'une ambiguïté travaille le texte, pourtant, comme l'indique déjà le titre, puisqu'il fait aussi bien référence au jeu qu'à la théorie, c'est-à-dire aussi bien à la métaphore qu'au concept. Et c'est ce dernier aspect théorique qui peut-être a été insuffisamment souligné. Alors, dans des études de la conférence qui certes n'ont pas défendu l'idée que le Duende était complètement impensable ou ineffable, sous peine de perdre leur propre légitimité, mais qui ont pu dire que c'était un inexplicable, un objet de pensée dont on ne pouvait épuiser le sens. Alors, ces études, qui sont parfois elles-mêmes métaphoriques, s'en sont tenues à produire plutôt des caractérisations du Duende que des définitions stricto sensu, et ceci de façon hétérogène. Alors, je vais en donner quelques caractéristiques. D'abord, d'une part, on peut dire que les analyses littéraires et esthétiques oscillent entre deux registres. Premièrement, le registre mythologique, qui fait du Duende un être surnaturel, intermédiaire entre les dieux et les hommes. Alors on parle du descendant du daimon socratique, on parle du lutin des croyances espagnoles, ou de démons de diverses sortes, un oracle de la terre qui serait un ersatz de Satan par exemple, on trouve aussi des expressions du type « c'est un démon de l'instant », etc. Et puis le deuxième registre, c'est le registre artistique, qui voit dans le Duende quelque chose comme une inspiration, une force créatrice qu'on qualifie alors de mystérieuse, de magique, de nocturne ou de dionysiaque, souvent proche de l'idée romantique de génie ou d'un pouvoir d'incantation qui serait capable de plonger les auditeurs dans un délire. Alors, en l'absence d'une définition stable, on a pu premièrement proposer des recherches généalogiques sur l'idée esthétique du Duende, des recherches étymologiques, historiques, qui mettent en valeur les traditions populaires, folkloriques et littéraires auxquelles a puisé Lorca. Et puis deuxièmement, on a pu donner des caractéristiques du Duende, notamment en le distinguant de ses autres, la muse et l'ange. Alors, ça c'était pour les analyses littéraires et esthétiques. D'autre part, on trouve aussi des commentaires psychanalytiques du texte de Lorca qui présentent eux-mêmes une certaine hétérogénéité. Alors, le duende est souvent présenté comme une force inconsciente, alors, dont on ne sait si elle émane de l'esprit ou du corps. On le qualifie parfois d'impossible à dire. On l'associe également l'initiation méditerranéenne. Bref, on ne sait s'il s'agit d'un inconscient individuel ou collectif et on ne sait pas exactement quelles sont ses caractéristiques. Parfois, les approches littéraires et psychanalytiques se rejoignent également dans l'interprétation du duende comme une puissance de plaisir qui est à la fois esthétique et sexuelle. Donc on le voit, la priorité est globalement donnée à la dimension irrationnelle du duende. Cependant, on peut imaginer que ce qui explique les usages actuels, ce n'est pas seulement donc, la partialité de telles interprétations, mais peut-être aussi une certaine réception stéréotypée dont elles ont pu bénéficier, et qui, parfois, en a forcé le sens, de sorte que l'inexplicable se soit transformé en véritable ineffable ou impensable. Alors, est-ce à dire, comme on a pu le soutenir, qu'afin d'éviter une telle réduction, il serait préférable de ne pas interpréter le texte ? Lorca lui-même préconisait de simplement, je cite, « recevoir son texte poétique et non de l'interpréter ». Alors, certaines études critiques permettent de faire un retour sur l'ensemble de ces approches. On a pu, à contrario, mettre en valeur la dimension rationnelle, voire conceptuelle, de jeu et théorie du duende, et par la même occasion, c'est un terme qu'on trouve parfois, la conscience dont témoigne le sujet qui est en proie au duende. Alors en effet, on peut dire que dans Jeu et théorie du duende, la compréhension qui est offerte de cet objet de pensée n'est pas seulement intuitive et l'écriture n'est pas non plus exclusivement imagée. On peut repérer que depuis les premières conférences de Lorca sur le Cante Rondo, sur l'Argentina, la pensée s'est relativement stabilisée. Cette mise en valeur de la rationalité peut d'ailleurs se lire en de multiples endroits de l'œuvre de Lorca, lequel se dit parfois capable d'un rapport contrôlé avec sa propre activité créatrice. Il dit redouter, par exemple, que la réception de ses écrits new-yorkais, qui datent donc de la même période que Jeu et théorie du duende, ne voit en eux qu'une origine subjective, alors même qu'il souhaite formuler, je cite, « une abstraction impersonnelle ». Débarrassé des oripeaux, comme il le dit, du dramatisme, sauf à parler, donc là encore je le cite, d'un pathétisme froid et précis, purement objectif. Il affirme aussi comprendre la poésie. D'ailleurs, la fin de la conférence reprend cette idée de compréhension, unie à celle d'amour, autrement dit cette alliance du rationnel et du sensible dans le duende, puisqu'il dit, je cite, « Avec du duende, il est plus facile d'aimer, de comprendre, et l'on est sûr d'être aimé, d'être compris ». Par ailleurs, on a pu aussi soulever certains enjeux idéologiques du texte et montrer leur lien avec les enjeux littéraires ou soulever les enjeux politiques de sa récupération. Andrés Soria Olmedo, qui n'est pas ici aujourd'hui, affirme que si officiellement « Jeu et théorie du duende » est un exposé d'inspiration romantique sur le génie de l'Espagne, et notamment à destination des étrangers, en fait, le texte expose le noyau idéologique plus mûr que Lorca nourrit depuis 1928 et qu'il appelle sa nouvelle manière spiritualiste. Ainsi, Andrés Soria Olmedo a-t-il également dénoncé la caractérisation lorquienne du duende en termes quasi magiques et les lieux communs qui l'accompagnent, les gitans, le chant flamenco, les taureaux, l'Espagne, etc. L'opposition entre poète intuitif et poète savant est par ailleurs trop simpliste pour rendre compte de la personnalité poétique de Lorca, surtout quand on sait que dans une lettre à Jorge Guillén, Lorca écrit que son mythe de gitanerie, ce sont ses termes, le dérange un peu, que les gitans sont pour lui seulement un thème et rien de plus, et que par ailleurs le gitanisme lui donne, je cite, un ton d'inculture, un manque d'éducation et de poète sauvage, dans lesquels il ne se reconnaît pas. Il écrit également à José Bergamín que le fait qu'on le considère comme gitan lui nuit et que l'essence gitane est pour lui un mythe. Par ailleurs, donc j'en ai parlé un tout petit peu, la postérité de l'idée lorquienne de duende n'est pas exempte de mystification politique, puisqu'on a pu vouloir l'utiliser afin d'en faire l'étendard d'une identité nationale qui restait encore à construire. Donc, ces différentes études critiques ont pu parfois émettre une première tentative de définition, en reconnaissant que l'ineffable n'est pas ce qui ne peut pas être défini, ou plus exactement que l'ineffable, c'est ce qui appartient au concept du duende. Autrement dit, l'ineffable, en fait, c'est une des manières d'exposer l'ineffable, c'est une façon d'exposer aussi le concept de duende. On a pu dire que l'énoncé selon lequel le duende est un pouvoir mystérieux, hein, que tout le monde ressent mais qu'aucun philosophe n'explique, peut être interprété finalement comme une définition explicite du duende dans la conférence, même s'il s'agit d'une définition qui montre les limites du concept. Autrement dit, l'irrationnel n'est pas tant ce qui exclut la possibilité du concept que comme ce qui en fait partie. Il s'agit alors bien sûr d'une définition paradoxale car incapable de remplir une quelconque fonction explicative. Mais donc à côté de cette première tentative de définition, on en trouverait d'autres qui donc dépassent l'idée d'ineffable. Alors le duende peut être tour à tour assimilé à un sentiment de mort, ou encore à un moment de communion, ou encore à l'empathie, ou à la sympathie, ou à la télépathie, à la transe, à l'extase, bon, etc. On pourrait être très long sur le sujet. Les commentateurs tombent d'ailleurs le plus souvent d'accord pour souligner le caractère limite de ce phénomène, la nécessité d'une prise de risque, d'un abandon de soi, et soulignent ainsi que s'y produit une transformation du sujet. Mais alors, divers problèmes se posent pour construire le concept, eu égard à ces différentes définitions. Premièrement, leur incompatibilité entre elles. Deuxièmement, une certaine absence d'unification des différentes visions du duende données par Lorca. Ou encore, leur application seulement au cante rondo et non au flamenco en général, ou même à la culture espagnole. Et enfin, très souvent, une certaine difficulté à rester dans un registre qui serait uniquement rationnel. Le fait qu'aucun concept stable du duende ne soit parvenu jusqu'à nous pourrait provenir de l'absence de mise en valeur de la relative unité et stabilité des conceptions du duende proposées dans « Jeux et théories du duende ». Donc, pour éviter une lecture stéréotypée du texte, sans doute la solution n'est-elle pas de se retenir d'interpréter, de simplement recevoir, mais d'interpréter en essayant de tenir compte autant que possible de toutes les dimensions du duende qu'expose Lorca dans la conférence. Alors, c'est cette définition relativement, je dis relativement parce que c'est discutable, unitaire et stable que je vais essayer de construire à présent. Alors tout d'abord, on peut commencer par dire que le fait que le duende soit ancré dans une culture, hein, qui est celle de l'Espagne selon Lorca, peut nous assurer que le concept existe bel et bien. Parce que, en effet, c'est cet ancrage dans la culture qui rend possible la reconnaissance du duende comme tel. Si le duende n'était qu'une occurrence unique ou une expérience purement individuelle, eh bien, on ne pourrait jamais l'identifier de façon récurrente. C'est bien parce qu'en chaque événement singulier se saisit quelque chose de connu et de commun qu'on peut postuler que le concept existe. Dans le temps même de la performance, ce commun est palpable. Dans le rapport, par exemple, qui s'établit entre les artistes, Lorca lui-même dit « Souvent, le duende du musicien se transmet au duende de l'interprète. » Il vient aussi, donc, ce commun de la reconnaissance du phénomène par le public. Je cite encore Lorca, il nous dit « Dans toute l'Andalousie, les gens parlent sans cesse du duende et le remarquent dès qu'il apparaît avec un instinct efficace. » etc. On pourrait trouver d'autres exemples. Bon. Donc ça, c'est pour établir qu'on peut penser que le concept existe. Deuxièmement, on peut montrer que le texte comporte, en plus de la définition explicite dont j'ai parlé, le pouvoir mystérieux, qu'il comporte des définitions implicites du duende. Alors certes, il y aurait trois obstacles majeurs à la perception de leur unité. 1. La conférence ne comporte aucune structure claire. 2. Ces définitions implicites peuvent sembler disparates au premier abord. Et 3, Lorca procède au cours de la conférence à une extension significative du sens du duende, ce qui rend les contours du concept flottants. Alors, pourtant, on peut défendre l'idée que toutes ces définitions implicites dans le texte peuvent être liées à la présentation initiale et explicite du duende comme esprit du peuple espagnol. Cette notion, que Lorca présente comme populaire et nationale, n'offre d'ailleurs rien de mystérieux au premier abord. Il nous dit « Il s'agit pour moi de donner, je cite, une leçon simple ». Alors, en effet, ce qu'il appelle l'esprit caché de la douloureuse Espagne est annoncé dès le seuil du texte comme étant l'objet dont il va traiter. Il est assimilé au duende, puisque le duende est l'objet même de la conférence. On remarque ensuite qu'au fil du texte, Lorca propose quatre autres conceptions du duende. Il parle d'un pouvoir artistique, premièrement. Deuxièmement, d'un être surnaturel. Troisièmement, d'un événement qui serait déclencheur de l'émotion. Ou encore, quatrièmement, d'un changement si radical qu'il permettrait l'accès au tout autre, à un monde transcendant qui semble proche du divin. Comment comprendre alors cette apparente dispersion ? On peut faire l'hypothèse que ces quatre conceptions sont d'une part liées à l'idée initiale d'esprit du peuple, mais d'autre part aussi liées entre elles. Alors, c'est ce que je vais essayer de montrer. Donc d'une part, ces quatre conceptions peuvent être comprises comme les différentes manières qu'a l'esprit espagnol de s'exprimer. Ainsi, c'est l'art, en particulier l'art du chant, qui se voit mentionné le premier parmi les domaines d'expression possibles de l'esprit du peuple espagnol. Plus loin, le duende sera aussi mentionné comme, je cite, « ce qui agite le corps et la voix de la danseuse ». Donc le duende est présenté comme un pouvoir, sans qu'on sache très bien s'il appartient à une personne, à un moment, à un phénomène, une performance ou à un morceau musical. Quoi qu'il en soit, on peut dire que le terme est le nom espagnol de ce qu'on nomme en esthétique l'inspiration. Ensuite, l'esprit du peuple s'exprime dans la croyance espagnole à ce que Lorca appelle l'esprit de la terre. Le duende désigne ici un être mythologique proche du lutin, capable de revêtir des apparences multiples et qui présente une polarité car il est capable de bienveillance comme de moquerie. Troisièmement, le duende est présenté comme la source de l'émotion espagnole. Comme en témoigne le récit de la prestation de la Niña de los Peines, le duende devient la condition d'achèvement de l'œuvre d'art, de sa perfection, dit le texte, en Espagne. Enfin, dans le duende s'exprime le rapport du peuple espagnol au divin, comme en témoigne l'analyse que Lorca fournit du langage ordinaire. La survenue du duende provoque en effet l'évocation du nom de Dieu, un « Viva Dios » dans la musique andalouse ou un « Olé » qui semble proche du « Allah » des musulmans par sa sonorité dans la tauromachie. C'est ce qu'il dit. On constate donc que chacune de ces quatre conceptions du duende constitue une manière qu'a l'esprit espagnol de se manifester. Mais d'autre part, il est possible aussi de montrer quelle cohérence le texte établit progressivement entre ces quatre conceptions. Une fois posée l'idée que le duende est un pouvoir artistique, une inspiration, l'allusion de Lorca à la démonologie peut apparaître comme une métaphore qui vient appuyer cette même idée, mais aussi comme un moyen de trancher la question ontologique. Par l'intermédiaire d'un démon, ce pouvoir artistique est transmis à l'artiste, ce qui montre le duende comme une faculté, une disposition à susciter, faire quelque chose chez l'artiste lui-même. Donc une proximité s'établit entre les idées d'artiste, de duende et de génie créateur. Le duende, ici personnifié, doit être compris comme appartenant à une personne, un génie, qui est l'auteur de la production artistique. Que le duende apparaisse ensuite comme la garantie de l'excellence de l'art, comme sa condition d'achèvement, de perfection, dit le texte, ne relève sans doute pas d'autre chose que de l'approfondissement de cette idée de génie. Le duende n'est pas un simple pouvoir créateur, hein, c'est une condition d'existence d'un chef-d'œuvre, donc d'une excellence. Il représente un étalon à l'aune duquel se mesure la qualité de l'art, raison pour laquelle il peut aussi finalement être attribué à l'œuvre ou à la performance elle-même, par dérivation. Alors, c'est aussi la raison pour laquelle, sans doute, le duende est pour Lorca ce qui permet de nous mettre en contact avec ce maximum d'être que représente le transcendant sous les espèces du divin. Sous l'effet de la faculté de l'artiste, donc qui crée une œuvre de qualité, une œuvre géniale, survient un événement émotionnel dont on peut dire qu'il comporte deux caractéristiques, dont l'une peut en réalité être lue comme la conséquence de l'autre. Il est un producteur de changement, et deux, ce changement est si radical qu'il provoque une nouveauté absolue, proche de celle de la création divine elle-même. Donc on peut parler d'événements miraculeux, si l'on veut, à son égard. Le duende est le signe d'une qualité telle qu'elle ne peut être conçue que comme étant d'origine surhumaine. Nous emportant vers ce qui nous dépasse et qui nous rend miraculeusement accessible, il entraîne alors chez le spectateur un ravissement esthétique inattendu. Donc ces différentes versions du duende lorquien peuvent être lues comme n'en formant qu'une. Il s'agirait de l'esprit du peuple espagnol qui s'exprime à travers l'art au titre d'une force créatrice gage de radicalité, celle de cette absolue nouveauté qui nous fait toucher du doigt l'excellence divine. L'évasion esthétique qui est alors à l'œuvre est à la fois sa source, l'inspiration chez l'artiste, et son résultat, le ravissement chez le spectateur. Pourtant, il est vrai que dans la suite du texte s'opère une double extension de la définition que je viens de donner. Premièrement, une extension des acteurs concernés. De l'idée que le duende est un phénomène espagnol, on passe à celle qu'il survient dans tous les pays. Deuxièmement, il y a une extension des domaines. Alors que Lorca circonscrit au départ le domaine du duende à celui des arts vivants, il agrandit ensuite ce domaine à celui de tous les arts. On passe donc d'une dimension nationale à une dimension internationale, voire universelle. Le duende en vient à désigner tout ce qui a, c'est ce que dit Lorca, de la substance en art. Comment comprendre cette extension et ne rompt-elle pas l'unité dont je viens de parler ? Alors, pour l'expliquer, on peut dire que le duende, sans pouvoir désigner à la fois un pouvoir d'atteindre l'excellence qui s'exprime en général dans l'art de toute culture, et qui peut toucher quiconque. Et ce même pouvoir qu'on retrouve sous les espèces du flamenco, en particulier andalou, où il trouve non pas sa manifestation exclusive, mais sa manifestation la plus forte, paradigmatique. Par synecdoque, le duende pourrait donc à la fois désigner la puissance émotionnelle de l'art en général et celle du flamenco en particulier. La différence n'est alors que de degré. Parmi les arts, ceux qui font preuve de duende se signalent par une qualité remarquable. Et parmi ces derniers, le flamenco est celui qui est au plus haut point capable de faire advenir cette qualité. Lorca procède donc à une hiérarchisation des arts et des cultures en fonction du degré de duende qu'il comporte. L'art espagnol, en particulier flamenco, en est le couronnement. À chaque fois, c'est comme si se jouait l'atteinte de ce qui peut se nommer une profondeur, un centre, le fond des choses, ou encore, comme le formule Lorca dans le récit qui concerne la Niña de los Peines, non des formes, mais la moelle des formes. Le duende ne serait rien d'autre que l'expression d'un désir exigeant qui vise à entrer dans l'intériorité des choses, leur quintessence, ou tout simplement leur essence. Il se donne donc comme l'indice d'un accomplissement, d'une perfection. Donc si on revient au sens restreint, au sens espagnol, on peut dire que le duende désignerait l'esprit de l'Espagne, au sens où c'est ce par quoi elle s'accomplit comme Espagne, donne à ressentir son essence. Le duende, ce serait le nom de cette adéquation entre la finalité de l'Espagne et sa réalité, entre sa puissance et son acte. Mais de façon plus large, dire qu'un interprète a du duende revient à dire que cet interprète a atteint et rendu sensible l'essence de l'art ou de l'artiste en général. Pour qu'il ait du duende, il faut que cet artiste, en quelque sorte, performe l'essence de l'artiste. De même, en irait-il au cours de la corrida, comme le rappelle Francis Wolff, quand le public crie au torero, torero, l'appelant non de son nom propre, mais du nom de la fonction qu'il représente, lui signifiant par là qu'il est en train d'actualiser l'essence même du torero à travers sa prestation singulière. Donc pour conclure, on peut dire qu'en plus des différents enjeux littéraires, idéologiques ou esthétiques du texte, sur lesquels on a déjà beaucoup écrit, il y a peut-être une autre dimension à prendre en compte, philosophique cette fois, pour le comprendre. Cette dimension philosophique est liée à la manière dont le concept de duende informe le texte et peut être reconstruit. Mais ce concept, bien sûr, ne peut apparaître si nous demeurons dans une conception stricte ou rigide de la définition, par exemple par genre et différence spécifique, comme on la trouverait chez Aristote, ou par condition nécessaire et suffisante, car le concept est trop étendu, mouvant et hétérogène pour cela. Donc s'il est possible de tirer de la conférence lorquienne une définition, c'est ce qu'on pourrait appeler une définition par R de famille, ou donc un concept de Wittgenstein, ou une définition prototypique, c'est-à-dire dans laquelle il existe un noyau conceptuel, un prototype, un paradigme, qu'on peut établir en resserrant progressivement la définition par cercle concentrique. Le plus grand de ces cercles, chez Lorca, comprendrait le duende comme moment émotionnel ou capacité d'un événement à susciter l'émotion, à performer l'essence de l'art, par exemple. Le deuxième, plus resserré, comprendrait le duende comme propriété d'une œuvre à susciter l'émotion. Et enfin, le noyau conceptuel pourrait référer à la capacité de l'artiste à susciter l'émotion. Et à l'intérieur de ce noyau, on peut établir des degrés d'extension. La plus grande extension serait représentée par la capacité de tout artiste en général à susciter l'émotion. Une moins grande extension serait donnée par la capacité de l'artiste espagnol à susciter l'émotion, en particulier dans le flamenco. Et à considérer, comme on a pu le dire, que c'est de sa propre esthétique dont Lorca parle dans la conférence, le cœur de cette définition prototypique pourrait être constitué par la capacité de Lorca lui-même à susciter l'émotion. N'a-t-on pas d'ailleurs occasionnellement désigné Lorca comme étant, par synecdoque, le duende lui-même ? Donc cela montre qu'il y aurait des rapports de croisement ou de parenté entre toutes ces acceptions du duende sans qu'elles se recouvrent complètement. Voilà. Merci.
Merci beaucoup. Ce qu'on va faire peut-être, c'est d'après le